Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
We are in the army.
We are in the army.
The Royal
Dutch Army.
Bonjour à tous, c'est la grogne au sein de l'armée néerlandaise. Les militaires se disent sous pression, les moyens manquent alors qu'ils sont sur tous les fronts. Les dernières déclarations du président américain Donald Trump dans un pays qui est très dépendant de l'OTAN ont ajouté au malaise. Aux Pays-Bas, notre correspondant Antoine Moutot a recueilli le témoignage d'un militaire qui exprime son ras-le-bol. Pour protéger son identité, sa voix a été entièrement modifiée.
Tom, c'est son nom d'emprunt, a accepté de nous recevoir à la seule condition de ne dévoiler aucun indice sur son identité. Il est militaire et devoir de réserve oblige, il lui est interdit de s'exprimer sur ses conditions de travail ou même de faire grève. Sauf qu'aujourd'hui, pour lui, trop, c'est trop.
D'un côté, on nous dit que la population est satisfaite de ses militaires. Le problème, c'est que nous, les militaires, justement, nous n'avons pas du tout le sentiment d'être estimés. En tout cas, surtout pas de la part de notre gouvernement, de notre ministre. Et donc de notre employeur.
Tom se plaint notamment d'un manque de valorisation des salaires et des retraites, mais c'est surtout la pression de plus en plus forte sur les militaires qui le met en colère.
Le gouvernement dit qu'il essaie de trouver des moyens supplémentaires, sauf que ces dernières années, ils ont procédé à des coupes budgétaires de plus d'un milliard d'euros dans le secteur de la défense. Donc il n'y a plus d'argent pour mener à bien notre tâche. Nous, les militaires, nous n'abandonnons pas. Ce n'est pas dans notre mentalité. Nous sommes au Mali, en Afghanistan. Nous avons des conseillers militaires en Irak. Nous survolons la Syrie avec nos F-16. Mais pour faire cela correctement, il nous faut des moyens.
Des moyens en baisse et surtout destinés à l'étranger plutôt qu'aux Pays-Bas.
Nous devons nous-mêmes donner le matériel de nos propres unités à nos collègues en mission à l'étranger. Car bien sûr, nous voulons qu'ils aient du bon matériel sur place. Mais voilà, du coup, aux Pays-Bas, nous ne sommes même plus assez équipés pour nous entraîner et donc nous préparer à de futures missions.
Et chez certains, la fatigue commence à se faire ressentir.
Si tu es par exemple envoyé au Mali, normalement la règle c'est que tu y passes 4 mois, puis tu retournes chez toi aux Pays-Bas pour au moins 8 mois. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est que quelqu'un qui est envoyé au Mali doit directement enchaîner avec une mission en Lituanie par exemple. C'est quand même pas possible ça.
Ce constat accablant, Tom est loin d'être le seul à le faire. Anne-Marie Snell, c'est la présidente de la FMP, le plus grand syndicat du personnel militaire et civil du ministère de la Défense.
Il y a un manque de munitions, un manque de matériel et même de vêtements. Lorsque les gens partent en mission, ils sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes car ils n'ont pas les bons uniformes. Récemment, il y a même eu un exercice complètement annulé à cause du manque de matériel. On assiste vraiment à une pénurie un peu partout aux Pays-Bas. Sauf que voilà, notre ministre et la classe politique en général s'attendent quand même à ce que les gens fassent correctement leur travail. Mais ce n'est pas possible, le personnel en a plein le dos.
Anne-Marie Snell, ça a une personne en particulier dans le collimateur, la ministre de la Défense, Jeanine Hennis. Juste avant les élections, elle avait évoqué au dernier moment une augmentation souhaitable du budget de 2,5 milliards d'euros. Anne-Marie Snell se lui reproche de ne pas prendre la mesure de la gravité de la situation.
Ce qui est sûr, c'est que la ministre a perdu la confiance du personnel de la Défense. Nous avons publié une enquête en février. Le pourcentage de mécontents au sein du personnel atteint 87%. Et un tiers du personnel dit ne plus avoir confiance en leur hiérarchie. Ce sont des chiffres très négatifs. Nous misons donc beaucoup sur le prochain gouvernement.
Depuis les législatives du 15 mars dernier, les Pays-Bas n'ont toujours pas de gouvernement. À cause du bon score de l'extrême droite de Geert Wilders, avec qui presque personne ne veut gouverner, les négociations pour former une coalition sont extrêmement difficiles. Anne-Marie Snell ne sait donc pas à quoi ressemblera le prochain gouvernement, mais avant les élections, elle a régulièrement manifesté et est allée à la rencontre des têtes de liste des différents partis pour les convaincre d'augmenter le budget de la défense. Avec le syndicat, elle ne compte pas s'arrêter là.
Les militaires n'ont pas le droit de faire grève, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas mener d'action. Nous en préparons en ce moment. Il s'agira d'opérations surprises, donc je ne peux rien vous raconter pour l'instant.
Selon Anne-Marie Snell, les Pays-Bas sont loin d'être le seul pays en Europe à ne pas assez soutenir son armée. Elle juge la plupart des pays de l'Union européenne trop dépendants vis-à-vis de l'OTAN. Surtout maintenant que le président américain Donald Trump remet indirectement en cause l'OTAN et met la pression sur les pays européens pour qu'ils investissent plus dans leur défense.
Je trouve que Trump est irrationnel et casse-cou, mais il faut quand même lui accorder qu'il a raison sur un point. Il existe un accord dans le cadre de l'OTAN selon lequel les pays membres doivent consacrer au minimum 2% de leur produit intérieur brut à leur propre défense. Ça fait bien longtemps que ce n'est plus le cas des Pays-Bas.
Ce constat, Dick Sande le partage. Il est chercheur à l'Institut Klingendahl, l'Institut néerlandais des relations internationales, basé à La Haye. Pour lui, sur le long terme, la dégradation, voire la fin de l'OTAN, pourrait avoir des conséquences désastreuses pour les Pays-Bas.
La fin de l'OTAN serait une catastrophe pour les Pays-Bas, mais aussi pour tous les pays européens. Une catastrophe qui serait très rapidement exploitée par Poutine, pas en attaquant directement un pays comme la France, mais en menaçant les pays baltes, par exemple.
L'an dernier, le site proche du Kremlin, Sputnik, s'était d'ailleurs empressé de reprendre des articles de la presse néerlandaise selon lesquels, par manque de munitions, des militaires néerlandais doivent parfois crier « pan, pan, pan » pendant des exercices de tir. Selon Dick Sande, l'heure est grave.
Le syndicat a tout à fait raison lorsqu'il dit que le personnel militaire est énormément sous pression. Nous continuons d'envoyer les troupes un peu partout. Il y a des Néerlandais au Mali, des instructeurs en Afghanistan. Pour l'OTAN, nous sommes en Lituanie et nous avons même en ce moment des membres de la marine néerlandaise en exercice en Roumanie. Et en même temps, l'armée est de plus en plus sollicitée pour notre sécurité nationale.
L'été dernier, par peur d'éventuelles attaques terroristes en pleine période touristique, la police militaire avait été déployée sur la route de l'aéroport international de Schiphol pour inspecter de très nombreuses voitures. Les bouchons ont été très importants et certains pointaient alors du doigt le manque de personnel. Aujourd'hui, beaucoup redoutent que la même chose se reproduise cet été.
Et dans un contexte de tension avec le voisin russe, plus de 5300 soldats de 10 pays de l'OTAN viennent de participer à des opérations d'entraînement en Pologne, mais aussi en Lituanie, où l'on retrouve notre correspondante Marielle Vituro. Bonjour Marielle.
Oui, bonjour.
Et quel était l'intérêt de ces exercices ?
Dans le domaine militaire, la région balte a connu beaucoup de transformations ces dernières années. Alors l'annexion de la Crimée par l'Ukraine a été un coup de semonce et l'OTAN a réagi face aux craintes des Baltes. En septembre 2015, les unités d'intégration des forces de l'OTAN se sont installées dans chaque capitale balte. Les bataillons multinationaux de l'OTAN, environ 1000 soldats chacun déployés depuis le printemps, ont été désormais déclarés opérationnels par le secrétaire général de l'OTAN. La région connaît donc une toute nouvelle configuration militaire. Cela se voit aux nombreuses visites de haut grade. Et il faut donc s'entraîner à agir ensemble pour pouvoir être efficace en cas de besoin. Les nouvelles forces de réaction rapide de l'OTAN et les alliés en place dans la région n'ont encore vraiment jamais coopéré ensemble.
Alors cette année, les exercices avaient un caractère particulier. Les troupes se sont entraînées à défendre le passage de Suwalki, le talon d'Achille de la région. Expliquez-nous.
Oui, c'est un endroit stratégique situé à la frontière entre la Pologne et la Lituanie. Et pour comprendre, il faut faire un tout petit peu de géographie. C'est une sorte de goulot d'une centaine de kilomètres de large. À l'ouest se trouve l'enclave russe de Kaliningrad, à l'est la Biélorussie. Et ces deux derniers pays forment une union militaire. Donc si ce corridor était occupé par les forces militaires russes, eh bien les trois pays baltes seraient coupés du reste de l'Europe. Alors cet endroit est donc au cœur des préoccupations militaires, notamment américains ou de l'OTAN. Et quand ils se rendent dans la région, eh bien les militaires le survolent régulièrement pour mieux comprendre son caractère crucial. Et dimanche dernier, pour la première fois, des troupes se sont entraînées à défendre ce passage. Les soldats britanniques et américains ont simulé la défense d'un début d'attaque.
Et ces derniers temps, Marielle, on note vraiment un regain de militarisation dans la région.
Oui, et c'est particulièrement notable en Lituanie. Il y a eu tout d'abord la réintroduction du service militaire, puis la hausse exponentielle des budgets de la défense, et puis une véritable politique d'acquisition de matériel. Depuis quelques jours, une clôture est en cours de construction entre la Lituanie et l'enclave de Kaliningrad. Alors, il s'agit certes de protéger la frontière de la contrebande, mais aussi de possibles attaques hybrides. Elle est financée par le budget national lituanien, et c'est une première. Et puis, mi-septembre, l'armée russe va organiser de très importants exercices militaires avec Zapad pour nom de code, cela veut dire « ouest » en russe. Le scénario des Russes est celui d'une attaque, d'une réaction à une attaque, donc une attaque de l'OTAN, cela va de soi pour les Lituaniens. Et aujourd'hui, Vilnius demande une véritable défense aérienne. Il n'existe pour l'instant qu'une mission de police du ciel en place depuis 2004.
Merci Marielle Vituro, à très bientôt. Non. C'est un de ces grands chantiers européens qui mobilise une forte opposition citoyenne. Le train grande vitesse entre Lyon et Turin, le TAV, le nouveau tunnel ferroviaire sous les Alpes et sa gare internationale, mobilise un budget de 26 milliards d'euros. Beaucoup trop, estiment les opposants, qui dénoncent au sein du collectif No TAV un projet sans cohérence économique. Depuis le mois de mars, les habitants de la vallée de Suse, dans le nord de l'Italie, ont commencé à recevoir des lettres d'expropriation. C'est le reportage sur place de Carlotta Morteo.
Montpantero, 600 habitants, un village niché au cœur des Alpes italiennes, entre un torrent et les neiges éternelles.
Hey, ciao! Molto bene, tu?
En cette fraîche soirée, ils sont une petite cinquantaine d'habitants à s'être déplacés pour une réunion d'information à la mairie. Marco Simioli, ingénieur quinquagénaire, a le visage sombre. Sa maison se situe sur le tracé de la future ligne de train haute vitesse, le TAV. Il tient dans sa main une lettre qu'il a reçue de la part de l'entreprise TELT en charge des travaux. Une lettre d'expropriation.
On s'attendait depuis longtemps à recevoir cette lettre. On l'a reçue début février et on a répondu immédiatement. TELT nous a d'ailleurs déjà renvoyé une réponse par recommandé. Maintenant, on attend de voir comment affronter le reste de la procédure. Ils veulent acheter notre terrain, bien sûr, mais on n'a pas de rendez-vous encore. On leur a simplement dit que nous ne voulions pas vendre.
Problème, le TAV est considéré comme un ouvrage d'utilité publique. Les procédures d'expropriation sont donc quasi impossibles à contrer. Seule solution, gagner du temps. C'est la stratégie des NoTav, le mouvement citoyen qui milite contre le projet. Luca Giunti, garde forestier et militant NoTav, explique.
On a acheté un petit bout de terrain sur lequel devrait passer le chantier. Il a été acquis par 1000 personnes. Ainsi, on oblige l'entreprise à faire 1000 lettres d'expropriation, 1000 procédures, 1000 recours en justice. C'est une forme d'obéissance civile parce qu'on respecte la loi, mais c'est une manière légale pour contrecarrer ce genre de projet.
Ce fameux terrain, c'est la première chose qu'on voit à l'entrée de la ville voisine de Suse, le chef-lieu de la vallée. C'est Mario Fontana, militant NoTav de la première heure, chaussures de marche aux pieds et bandeaux sur les oreilles, qui va nous y conduire.
Les trois maisons à gauche, là, c'est celles qui vont abattre pour faire passer les rails. On va les voir. Eh bien, il y a le drapeau de NoTav.
Sur ce grand pré de 500 mètres carrés environ, trône le Presidio NoTav, un préfabriqué peint d'un paysage de montagne, d'un train barré d'une croix rouge qui sert de lieu d'information et de mobilisation.
Voilà, la gare internationale de Suse va être ici. Elle va être aussi haute que le lampadaire, là. 25 mètres de haut. Ils vont la faire sur un monticule surélevé. Les trois maisons, juste là, vont être abattues.
À l'intérieur du préfabriqué sont affichés tous les plans du projet, des voies ferrées, des réseaux électriques, les cartes détaillées des limites de propriété.
Nous sommes ici. Là, ce sont les rails actuels et là, les futurs rails. Là, ce sera l'embouchure du tunnel de base.
À 300 mètres sur la droite. Et c'est ça,
c'est toute la surface d'expropriation. Vous vous rendez compte?
En tout, 500 personnes pourraient être expropriées. L'autre terrain, acheté collectivement, lui aussi se situe aux abords du seul chantier en cours, côté italien, dans un vallon étroit, à quelques kilomètres de Suse. Passé un hameau de montagne, la route s'arrête là où commence un sentier pédestre.
Ce chantier a une importance stratégique car il est dans un endroit où les gens ne viennent pas, un lieu non habité, et donc les gens ne réalisent pas vraiment ce qui est en train de se passer.
Mario et sa femme Doriana Tassotti, enseignante au lycée, font partie des marcheurs NoTav qui viennent très régulièrement faire la ronde du chantier.
Avant, on ne le voyait pas encore d'ici, mais il est en train de s'agrandir. Il se diffuse, nous on l'a surnommé le cancer.
En face, de l'autre côté du ravin, on aperçoit le rail actuel du TGV Lyon-Turin.
Il y a un train toutes les deux heures. La ligne est inutilisée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fret à transporter. C'est des conneries tout ça. Ils estiment qu'avec ce nouveau projet, 30 millions de tonnes de fret transiteront ici en 2025-2030. Mais le trafic ne cesse de baisser et on est à peine à 2,5 millions. Nous, on est hyper favorables à mettre les camions sur les trains. Mais utilisons ce qu'on a déjà. Ne jetons pas 26 milliards d'euros comme ça alors que la France et l'Italie ont des problèmes financiers en ce moment, qu'on a des villages entiers à reconstruire après les tremblements de terre qu'on a subis cette année, des choses incroyables.
30 mètres sous la bretelle d'autoroute, le chantier, entouré de hauts grillages barbelés, est surveillé 24 heures sur 24 par l'armée depuis les manifestations massives et violemment réprimées de 2011. Ce trou est un tunnel test de 7 km qui doit permettre d'analyser le terrain rocheux, un tout petit bout de chantier qui a déjà coûté 350 millions d'euros. Autrefois industrieuse, Suze compte aujourd'hui 13% de chômeurs pour 7000 habitants. Beaucoup sont ouvriers, travailleurs du BTP, transporteurs et souvent désœuvrés.
Je suis pour le TAV, pour créer de l'emploi. Cette vallée est en train de mourir.
Et vous, vous êtes plutôt pour ou contre ?
Moi, je suis électricien, chef de chantier. Alors, par rapport au métier que je fais, je serais plutôt pour, même si mon emploi a été pris par des gens extérieurs à la vallée. Mais en même temps, je suis conscient que nos montagnes sont faites de matériaux qu'il serait plus prudent de ne pas toucher. Donc je suis divisé.
La création d'emplois, voilà un argument des promoteurs du TAV qui fait mouche. Depuis le Café del Sole, notoirement notave, je joins par téléphone Luigi Casel, responsable financier pour diverses communes de la vallée.
Ça fait partie de ma vie de dépenser de l'argent public pour le bien de la population, le développement économique, l'emploi.
Depuis 25 ans, il supervise les appels d'offres des marchés publics et connaît donc les coulisses du TAV sur le bout des doigts.
Mais l'argent public, il faut le dépenser pour des choses utiles. C'est un grand mensonge de dire que ce tunnel va ramener du travail. Nous en avons la preuve avec ce tunnel test. Ils ont dépensé une tonne d'argent et seulement 42 ouvriers de la vallée ont travaillé pendant 4 ans, dépensé presque 350 millions d'euros pour faire travailler 42 personnes. Croyez-moi, avec cette somme d'argent, nous aurions pu faire beaucoup de choses dans le domaine de la santé, pour les écoles. On aurait créé 1000 fois plus d'emplois.
Aujourd'hui, le seul parti en Italie à s'opposer au projet est le mouvement 5 étoiles, en difficulté depuis le premier tour des municipales il y a 10 jours. Mais pour arrêter définitivement le chantier, les notables espèrent que la France et l'Union européenne renonceront à le financer.
Le gouvernement hongrois n'aime rien tant que taper sur l'Union européenne. Sa dernière campagne, intitulée « Arrêtons Bruxelles », aurait connu un franc succès. 1 600 000 personnes ont renvoyé le questionnaire, si bien qu'une nouvelle campagne d'affichage vient aujourd'hui les remercier. Mais derrière cette posture idéologique se cache une vraie stratégie financière, comme nous l'explique depuis Budapest Florence Labruyère.
Encore une campagne publicitaire du gouvernement hongrois. Après l'opération Arrêtons Bruxelles, de nouvelles affiches sont apparues dans les rues de Budapest. Merci d'avoir répondu à notre consultation nationale. La Hongrie est un pays fort et fier, peut-on lire sur ces posters. Mais à quoi rime une opération d'une telle ampleur ? Pourquoi placarder des milliers d'affiches dans le métro, les abribus, le long des autoroutes ? Pourquoi acheter autant d'espaces publicitaires à la télévision ? Tout cela pour dire merci et pour dire que le pays est fort et fier. La réponse est que ces opérations de communication sont un juteux business. Qui en profite ? D'abord les deux ou trois agences publicitaires qui appartiennent à des oligarques proches du pouvoir. Ces agences sont chargées par le gouvernement d'investir l'argent public dans l'achat d'espaces publicitaires. Et ce sont des sommes énormes. La campagne Arrêtons Bruxelles aurait coûté à elle seule plus de 13 millions d'euros. La moitié de cette somme a été investie dans la télévision publique, complètement contrôlée par le pouvoir, et dans des médias privés qui appartiennent indirectement au parti de Viktor Orban, une chaîne de télévision, des sites internet, un quotidien. Or, ces médias privés, créés relativement récemment, n'ont pas un public suffisant pour pouvoir vivre. Ces opérations de communication leur apportent donc d'énormes recettes. Un système ingénieux financé par le contribuable hongrois. Ce flux financier permet de maintenir à flot tout un empire médiatique, en fait, une machine de propagande au service de la droite nationaliste de Viktor Orban.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site RFI.fr et sur les réseaux sociaux. À demain.